Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est 8h à Washington et à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
Anne Contenaire.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain avec à la une ses nouvelles nominations dans le camp Trump. Le président élu s'entoure de ses proches et confie notamment à Elon Musk un département chargé de démanteler un certain nombre de services fédéraux. Et tant pis pour les conflits d'intérêts, on en parle dans un instant dans le journal et dans quelques minutes pour voir ce qu'en dit la presse aux États-Unis. Avec notre invité de l'International Crisis Group, nous reviendrons aussi sur cette nouvelle flambée de violence en Haïti. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises avec vous, Alex Léveillé, on ira en Martinique où la nuit a été agitée.
Et cela suite à l'arrestation du président du Harprac, Rodrigue Petitot.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Donald Trump n'est pas encore président, mais les polémiques commencent déjà.
Oui, élu il y a une semaine, Donald Trump prendra ses fonctions dans 2 mois. Il s'y prépare puisqu'il a commencé à former son cabinet. Parmi les premières nominations, un tout nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Il est confié conjointement à Elon Musk, le richissime patron de Tesla, SpaceX et X, le réseau social, et au milliardaire républicain Vivek Ramaswamy. Nathanaël Vitran, bonjour.
Bonjour.
Ces nominations, Nathanaël, sont source de nombreux conflits d'intérêts.
Oui, dans son communiqué, Donald Trump fixe la feuille de route. Ensemble, ils devront démanteler la bureaucratie fédérale, supprimer les régulations excessives et tailler dans les dépenses inutiles. De combien ? En meeting fin octobre, le milliardaire Howard Lutnick avait sondé Elon Musk.
Combien pensez-vous que nous pouvons tirer de ce gaspillage budgétaire ?
Au moins 2000 milliards de dollars, lâche alors l'homme le plus riche du monde, quasiment un tiers du budget fédéral. Un budget qui profite pourtant largement aux entreprises d'Elon Musk et surtout à SpaceX. L'entreprise spatiale a bénéficié de 15 milliards de dollars de contrats publics, que ce soit pour la NASA ou le Pentagone. L'État fédéral est à la fois un de ses principaux clients et son plus gros concurrent. À la tête de ce super ministère du conflit d'intérêts, le patron de Tesla et du réseau social X aura tout loisir d'affaiblir les ministères de l'énergie, du transport, de l'environnement ou du commerce qui régissent ces différentes activités. Quant au milliardaire encore un, Vivek Ramaswamy, il promet lui une deuxième déportation de masse.
La déportation de millions de bureaucrates non élus hors de Washington, D.C.
Vivek Ramaswamy qui a fait fortune dans les biotechnologies, l'industrie pharmaceutique, puisqu'on parle de santé, l'une des plus régulées au monde. En tout cas, Gilles, pour encore quelques mois.
Nathanaël Vitran du service économie. Une semaine après son élection, Donald Trump rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche le président démocrate Joe Biden. Rencontre destinée à montrer leur volonté, la volonté des deux hommes d'amorcer une transition en douceur d'une administration à l'autre.
On en parlait hier, ce propos polémique d'un ministre israélien. 2025 sera l'année de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie.
Oui, ce sont les mots prononcés par Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances. Lui-même colon, c'est un suprémaciste juif qui prône l'annexion pure et simple de la Cisjordanie occupée, de son nom biblique Judée et Samarie. De nombreux Israéliens attendent depuis longtemps cette annexion. Ils espèrent que leur rêve deviendra réalité avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Côté palestinien maintenant, la déclaration du ministre est tout, sauf une surprise. Reportage d'Alice Froussard dans un village de Cisjordanie entre Ramallah et Naplouse.
Du haut de la colline qui surplombe le village de Tourmoussaya, Yasser Al-Kam pointe du doigt la colonie israélienne en face, Shiloh, et soupire. Ce palestinien d'une soixantaine d'années énumère les attaques de colons des alentours ces derniers mois.
Ils brûlent nos oliviers, ils brûlent nos serres. C'est juste quelque chose de quotidien à laquelle les gens sont en train de s'habituer. Et parfois, vous vous dites que vous devenez fou et que vous allez exploser. Mais qu'est-ce que je peux bien faire d'autre ?
Dans le village comme ailleurs, le grignotage des terres se fait progressivement, plus la colonie s'étend. À cause des attaques, les Palestiniens ne s'aventurent pas de l'autre côté de la route. Pour beaucoup, l'annexion existe déjà de facto.
Chaque ville ici est entourée de nombreuses colonies. Et les colons agissent de la même manière.
Donald Trump, de retour ou non, Yasser Al-Kham assure que Benjamin Netanyahou ne fait que ce qu'il souhaite. Pour Amir, un jeune palestinien à la trentaine, les rêves d'annexion des colons et de leur gouvernement sont loin d'être une surprise.
Ça fait plus de 70 ans que le monde entier ne nous soutient pas. Donc je ne pense pas que les Palestiniens attendent quoi que ce soit de l'extérieur.
Si personne n'arrête, dit-il, le génocide à Gaza, personne n'empêchera Israël d'annexer la Cisjordanie occupée.
Peu importe si les Israéliens prétendent que c'est leur pays. Je suis certain qu'ils savent très bien au fond que ce n'est pas le leur. C'est pour les Palestiniens et ça restera aux Palestiniens, qu'importe la relation de pouvoir.
Et peu importe la croyance des uns et des autres. Alice Froussard, de retour de Tourmoussaya, RFI.
Au Liban, une nouvelle frappe israélienne ce matin sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. De sources libanaises, il y a au moins 6 morts. Pour la troisième fois cette semaine déjà, l'armée israélienne avait appelé la population à fuir. Cette banlieue est maintenant désertée par la plupart de ses habitants.
En Russie, le secteur aéronautique bat de l'aile.
Oui, bravo, bien trouvé Anne. À Moscou, la presse du jour rencontre en effet des difficultés, rencontre une trentaine de compagnies aériennes. Si rien ne change, elles pourraient bien faire faillite dès l'an prochain. En cause, Anis Al-Jabri, une forte dégradation de leur situation financière.
Sur le papier, ces petites compagnies locales devraient se trouver plutôt en bonne santé. Nombre d'entre elles fonctionnent en effet au moins en partie avec des avions occidentaux pour la plupart, des appareils qu'elles louaient à l'ouest. Depuis 2022, les sanctions, elles ont cessé de payer et n'ont pas rendu les avions un hold-up et une manne financière, d'autant que l'État les a autorisées en 2025 à ne plus inscrire à leur compte cette charge de la dette, à les considérer comme annulées. En échange, ces montants seront soumis à une imposition de 25%. Ça reste pourtant trop, disent-elles, assurant risquer en ce cas la faillite. L'argent des loyers, le PDG de la compagnie North Star dit ainsi l'avoir utilisé pour maintenir la navigabilité des avions. Autrement dit, cet argent a été dépensé pour trouver des moyens pour assurer la maintenance et visiblement le contournement des sanctions pour assurer la sécurité des avions. Ça marche, mais ça coûte cher, très cher. Et ces petites compagnies n'ont pas les reins assez solides au point d'appeler très officiellement, l'État russe au secours. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
On va maintenant parler du bois de santal.
Oui, le bois de santal, un arbre qui produit une huile très odorante, particulièrement prisée par l'industrie du parfum et des cosmétiques. Parmi les différentes espèces, la plus prisée est la variante australienne qui pousse dans le sud-ouest du pays. Seulement voilà, cet arbre est surexploité depuis très longtemps, depuis les débuts de la colonisation, ce qui a poussé l'Union internationale de la conservation de la nature à demander son inscription comme espèce menacée, statut que pourtant le gouvernement australien ne lui reconnaît toujours pas. À Sydney, les explications de Grégory Pless.
Il y a quelques jours, des scientifiques ont recommandé d'ajouter le bois de santal australien à la liste des espèces menacées, mais le gouvernement a décidé qu'il ne prendrait de décision en la matière que dans 2 ans. Un choix qui agace profondément le botaniste Richard McLellan.
C'est assez scandaleux, car ils ont assez d'informations pour reconnaître que l'espèce est menacée, mais ils rechignent à le faire en raison de son immense valeur économique.
L'exploitation commerciale de ces arbres est en effet très lucrative. Ils se vendent pour environ 12 000 euros la tonne et sont pour l'essentiel abattus en pleine nature. Pourtant, le botaniste Kingsley Dixon estime que toute l'activité pourrait être transférée dans des plantations. Il y voit même l'occasion de reconvertir des terres sur lesquelles d'autres activités agricoles ne sont aujourd'hui plus possibles.
En Australie occidentale, nous avons de vastes zones déforestées qui, à cause du réchauffement climatique, ne peuvent plus être exploitées pour y faire pousser du blé ou d'autres céréales, mais qui sont idéales pour y faire pousser du bois de santal.
Mais ça n'est pas pour l'instant le choix retenu par les autorités australiennes, et ce même si le bois de santal, à l'image d'un tiers de toutes les espèces d'arbres sur la planète, sont menacés d'extinction. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Tout juste 13h09 en temps universel. Bonne journée sur RFI, c'est Anne Cantner qui vous accompagne.
Merci Gilles Moreau. Dernière partie d'RFI Midi en Haïti, au Venezuela et aux États-Unis pour commencer.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On en parlait tout à l'heure, la future équipe de Donald Trump prend forme. Le président élu annonce ses choix et nomme ses proches à la Défense, à la tête de la CIA, au ministère de l'Intérieur et au sein d'une nouvelle structure créée pour sabrer dans les dépenses publiques. Alors, que Donald Trump choisisse ses proches ne surprend personne et la presse, Vincent Souriau, le rappelle. Le maître mot, c'est la loyauté.
Et c'est Reuters qui le résume le mieux, loyauté, parce qu'au cours de son premier mandat, Trump s'est pris la tête avec des membres clés de son administration, en particulier dans les domaines du renseignement, de la sécurité nationale ou de la police, des gens qui ont raconté par la suite à quel point ils avaient traîné des pieds ou tenté de dissuader le président d'appliquer ses décisions les plus controversées. Aujourd'hui, libéré de ses garde-fous, le président élu aura sans doute beaucoup plus de latitude, car CNN remarque que chacun des responsables nommés jusqu'ici s'est aussi fait connaître par ce que Trump adore, des louanges permanents à son sujet, répétées et martelées sur tous les plateaux de télévision.
Attention, danger en matière de politique étrangère.
Oui, tribune à lire dans The Hill qui s'alarme d'une nouvelle approche diplomatique. Rien à voir avec le consensus post-Seconde Guerre mondiale qui voyait les États-Unis comme chantre de la stabilité mondiale. Et c'est en Ukraine que le Trump imprévisible que l'on connaît pourrait tout changer. Il y a ses affinités avec Poutine, il y a son dédain de Zelensky. Il pourrait tenter de réduire l'aide à l'Ukraine pour forcer Zelensky à négocier avec la Russie. Or, abandonner l'Ukraine, poursuivent les auteurs, c'est donner le feu vert à Poutine pour d'autres annexions. À chaque fois qu'il a eu le sentiment de gagner face à l'Occident, Géorgie 2008, Ukraine 2014, Syrie 2015, il a lancé de nouvelles offensives quelques années plus tard.
Vincent Souriau, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes. Mais d'abord, on prend la direction d'Haïti. De nouveau isolée, la capitale est coupée du monde. Aucun avion américain ne desservit à Port-au-Prince pendant un mois. Conséquence des tirs qui ont visé 3 avions avant-hier en vol près de l'aéroport international. Les attaques des gangs dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince ont aussi poussé les écoles, les banques et certaines administrations à rester fermées hier. Et puis, nouvelle illustration de la tension qui règne dans la capitale haïtienne. Une ambulance de Médecins sans frontières a été arrêtée par des membres d'une brigade d'autodéfense et par des forces de l'ordre, forcées de changer de destination pour conduire ces 3 blessés par balle vers un hôpital public, auprès duquel 2 de ces 3 personnes ont été tuées par balle. Les équipes de Médecins sans frontières, elles, ont été menacées de mort, insultées, violemment attaquées, dit l'organisation, qui appelle toutes les parties prenantes à respecter l'accès aux soins médicaux. La situation, elle se dégrade de nouveau considérablement. Alors faut-il craindre une série de violences coordonnées, comme cela avait été le cas au début de l'année? Michael Ponge a posé la question à Diego Darin, expert à l'International Crisis Group.
Bonjour Diego Darin.
Bonjour.
3 avions visés par des balles lundi aux abords de l'aéroport international de Port-au-Prince, ça avait déjà été le cas au début de l'année. Faut-il y voir tout de même là une nouvelle forme d'action de la part des gangs?
Le fait d'attaquer 3 avions commerciaux qui transportent des civils, bien sûr, est une étape supplémentaire dans cette escalade de la violence. Et les gangs montrent qu'à chaque fois, ils peuvent atteindre de nouveaux niveaux de violence indiscriminée, non seulement contre les forces de l'ordre, contre des institutions de l'État, mais aussi contre la population en général.
Au-delà de l'échec des travaux de sécurisation qui ont été menés des abords de l'aéroport, est-ce que cela signifie aussi que les gangs sont mieux armés qu'ils ne l'étaient ?
Écoutez, depuis quelques années, les gangs acquièrent des armes de plus haut calibre. Ils ont des armes de type AK-47, M40, des calibres 7,62 qui peuvent atteindre des cibles à plus de 400 mètres. Après, c'est un peu plus compliqué d'atteindre des cibles en mouvement et en hauteur. Mais les avions qui étaient ciblés, ils étaient ou bien en train d'arriver ou de partir de la piste d'atterrissage. Et donc, ils étaient plus ou moins à 200 mètres d'altitude. Et sur l'un des avions, il y a des évidences qu'ils ont au moins réussi à faire atteindre 4 projectiles. Donc, c'est des armes qu'ils avaient déjà. Mais là, c'est une décision délibérée d'attaquer des avions pour fermer l'aéroport.
La République dominicaine parle d'actes de terrorisme. Est-ce que c'est cela? Peut-on le qualifier ainsi?
La qualification de terroriste est une qualification, bien sûr, très lourde de sens et d'implication. De nombreuses organisations en Amérique latine, par exemple, ont été qualifiés de terroristes, ce qui empêche, par exemple, à certains moments, d'entamer des négociations avec certains acteurs criminels lorsque des autorités le considèrent nécessaire. Donc, c'est plus facile d'ajouter dans des listes d'organisations terroristes des groupes armés que de les faire sortir de cette catégorie. Mais vraisemblablement, les gangs utilisent de nouvelles méthodes pour essayer de bloquer le fonctionnement normal de la capitale. capitale et qui a de lourdes implications aussi sur le reste du pays.
La capitale qui vit à nouveau au rythme des coups de boutoir, des gangs depuis plusieurs jours. Est-ce que nous sommes, Diego Darin, face à une nouvelle action coordonnée des groupes armés ?
Les attaques qui ont recommencé depuis lundi sont surtout concentrées à Port-au-Prince et sont très ciblées. Donc pour le moment, on ne voit pas des attaques de tellement grande échelle comme il y a quelques mois, mais qui affectent le pays d'une manière très similaire avec la fermeture de l'aéroport et par exemple l'interdiction des États-Unis pour les compagnies aériennes d'aller à Port-au-Prince pendant au moins un mois.
Port-au-Prince qui se retrouve à nouveau totalement coupé. Quelles sont les conséquences, coupé du monde, hein, bien sûr, quelles sont les conséquences de cela ?
Cela affecte non seulement les vols commerciaux, mais aussi les opérations humanitaires. Les Nations Unies ont annoncé qu'ils n'enverraient plus d'aide pour le moment à Port-au-Prince, mais qu'ils essaieraient d'acheminer l'aide humanitaire prioritairement par la deuxième ville la plus grande au nord du pays, Cap-Haïtien. Mais là encore, c'est très difficile d'arriver à transporter l'aide humanitaire, par exemple, à la capitale, parce que les gangs ont une emprise sur les principales voies qui communiquent la capitale avec le reste du pays. Et ils ont annoncé dimanche qu'ils allaient essayer vraiment de couper les voies de transport et les portes de communication de Port-au-Prince.
Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi maintenant ?
Cette nouvelle vague a commencé vers la mi-octobre, lorsque les tensions au sein du gouvernement devenaient de plus en plus intenses, avec une lutte de pouvoir entre l'ancien Premier ministre qui vient d'être remplacé et le Conseil présidentiel de transition, qui estimait que le Premier ministre dépassait un peu les attributions qui lui étaient accordées par l'accord politique de 3 avril. Et en même temps, les gangs, lorsqu'il y a des crises politiques, ils en profitent pour raffermir leur emprise et montrer leur force militaire, notamment à ce moment où il y a un changement d'administration. Ils lancent des signaux d'intimidation et ils montrent qu'ils peuvent, à n'importe quel moment, bloquer complètement le pays, comme ils l'ont fait pendant quelques mois entre février et avril.
Il faut nécessairement faire le lien entre ces attaques et la situation politique.
La politique et la sécurité, bien sûr, sont liés dans tous les conflits, mais en Haïti, c'est très évident. Et dès qu'il y a un peu d'instabilité politique, les gangs qui aujourd'hui sont assez autonomes en profitent pour se montrer dans une position forte et un peu d'exiger que le gouvernement ait besoin de composer avec eux d'une manière ou d'une autre.
Le temps est venu de prendre le destin de ce pays en main. Ça, ce sont les mots du chef de gang Barbecue, Jimmy Cherizier. On se retrouve dans la même situation que février-mars. On entend les mêmes propos. Son but est le même. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ces propos-là ?
Au début du message, il dit s'adresser non seulement aux gangs, à la population et au gouvernement, mais aussi à la communauté internationale. Donc, c'est un signal fort, notamment à un moment où aussi il y a des discussions de transformation. La mission de sécurité dirigée par le Kenya en une opération de maintien de la paix onusienne qui aurait plus de ressources et plus de moyens pour contrer les attaques des gangs.
C'est l'objectif, empêcher le changement de nature de la mission internationale.
En effet, l'augmentation de l'intensité des attaques des gangs au cours des derniers mois répond à différentes dynamiques, mais l'une d'elles, c'est la matérialisation d'abord de la mission kenyane, mais maintenant que les gangs se rendent compte que ce n'est pas une véritable menace, mais que peut-être une mission de maintien de la paix onusienne pourrait se matérialiser. Les gangs font cette démonstration de force pour essayer de dérailler les plans qui répondent véritablement à l'échelle de la crise de sécurité en Haïti.
Et dans tout ça, Diego Darin, un nouveau gouvernement. Que peut ce nouveau Premier ministre que son prédécesseur n'aurait pas fait ?
Bah écoutez, les moyens du gouvernement avec des forces de sécurité locales qui ont une capacité limitée, aussi une mission de sécurité qui n'a pas suffisamment d'effectifs et d'équipements pour faire face à des attaques simultanées sur différents fronts, ce dont a vraiment besoin en ce moment le gouvernement, en plus d'une stratégie de sécurité un peu plus robuste avec les moyens du bord, c'est de s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y ait une aide de sécurité internationale un peu plus importante pour arriver à aider la police haïtienne et les forces armées qui sont mobilisées de plus en plus pour combattre aux côtés de la police, à reprendre un peu le contrôle de la situation de sécurité.
Mais peut-on imaginer éventuellement qu'une forme de dialogue entre le gouvernement, ce nouveau gouvernement, et les gangs s'engage quand il y a ces actions, quand Jimmy Cherizier prend la parole et fait allusion donc à ce besoin de reprendre la destinée du pays en main, est-ce que ça veut dire qu'il tente à nouveau de s'imposer comme des acteurs de dialogue aussi?
Écoutez, la position du gouvernement du Premier ministre Conille, c'était baisser vos armes avant toute autre disposition. Mais ce que demandent les gangs, c'est une amnistie. Une amnistie pure n'est pas concevable pour une population qui a fait face pendant de nombreuses années à des kidnappings, des viols collectifs, des assassinats, des extorsions. Donc c'est une situation très compliquée pour le gouvernement.
Merci Diego Darin.
Merci à vous.
Diego Darin, expert au sein de l'International Crisis Group, interrogé par Michael Ponge. On parlait du gouvernement haïtien. Lui aussi, Vincent Souriau, va devoir composer avec la nouvelle administration américaine.
Et oui, rappelez-vous, 2016, le candidat Trump visite le quartier de Little Haiti à Miami. Il pose avec les Américains d'origine haïtienne et leur dit dans un grand sourire « Je serai votre champion, c'est pour vous que je me présente ». On connaît la suite, s'énerve Dominique Domersan dans le National. Haïti, trop souvent dans la ligne de mire d'un Donald Trump qui mélange discours populiste, sentiments nationalistes, protectionnistes et racistes. Et si les Américains ont soutenu l'ancien président Jovenel Moïse, comme toujours, ce n'était pas gratuit. Encore un deal à l'époque, Trump avait engagé un bras de fer contre le président vénézuélien Nicolas Maduro. Et bien pour conserver l'appui financier de Washington, Haïti, comme d'autres pays de la sous-région, rappelle le quotidien Le National, ont dû s'aligner sur la ligne dure de la Maison-Blanche et voter contre Maduro au sommet de l'Organisation des États américains. En résumé, conclut Dominique Domersan, les autorités haïtiennes devraient choisir avec beaucoup de soin qui fera partie de la délégation présente à la cérémonie d'investiture de Trump au mois de janvier.
Vincent Souriau pour la revue de presse.
RFI, Las Voces del Mundo.
Le Venezuela de Nicolas Maduro, dont les difficiles relations diplomatiques avec certains voisins ont des conséquences pesantes sur la population. Après des critiques sur la réélection contestée du président en juillet, le régime de Caracas a retiré dans la précipitation son personnel diplomatique de 7 pays d'Amérique latine. Le Chili, l'Argentine, le Pérou, la République dominicaine, le Panama, l'Uruguay et le Costa Rica. Et ça perturbe beaucoup les déplacements des ressortissants du Venezuela. 2 300 000 personnes qui vivent dans ces différents pays et qui sont parfois coincées faute de services consulaires. Reportage Alice Campagnol.
Je m'appelle Yael Diaz, je suis vénézuélienne et j'ai vécu pendant 6 ans en Argentine. En ce moment, je suis au Venezuela pour être auprès de ma famille, mais j'y retourne d'ici un mois.
Yael a une trentaine d'années et son parcours est typique des jeunes diplômés vénézuéliens. Face à la crise, elle a quitté son pays il y a 8 ans pour tenter sa chance ailleurs. Aujourd'hui, elle est résidente permanente en Argentine.
En tant que vénézuélienne, c'est pas mal d'avoir un visa de résidence ailleurs, un filet de sécurité en quelque sorte, que je n'ai pas l'impression d'avoir ici. Là-bas, c'est facile de faire des démarches administratives, d'ouvrir un compte en banque par exemple. J'ai un lieu où vivre si je dois partir d'ici. En catastrophe.
Mais avec la fermeture des consulats, les choses pourraient bien se compliquer pour son petit ami notamment.
Il a un passeport qui est encore valide pendant 2 ans et comme on repart pour l'Argentine, on s'est posé la question de le renouveler maintenant vu qu'on est sur place. Une fois là-bas, comment fait-on s'il n'y a pas d'ambassade, s'il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit? Mais comme nous avons prévu de revenir l'an prochain, finalement, on n'a pas à faire refaire le passeport et nous le ferons à notre retour pour partir avec. De mon côté, j'ai demandé mon acte de naissance, notamment pour ne pas me faire surprendre maintenant qu'il n'y a plus d'ambassade.
Le retrait des personnels diplomatiques et consulaires affecte déjà des milliers de citoyens vénézuéliens. Exemple au Chili, où ils sont environ 700 000. Carolina Hidalgo Fiol, avocate.
Les démarches comme l'apostille d'actes de naissance qui pouvaient se faire ici ne peuvent plus l'être à Santiago. Les gens doivent se faire aider par quelqu'un au Venezuela et donc impossible de respecter les délais de l'administration chilienne en matière migratoire. Un autre problème pour les Vénézuéliens, c'est l'impossibilité de demander un sauf-conduit. Ici, il y a beaucoup de gens dont le passeport est périmé, notamment car le renouvellement au Chili a toujours été un parcours du combattant. Beaucoup de gens préféraient donc le faire renouveler directement au Venezuela. C'est plus rapide. Mais il faut un sauf-conduit pour voyager. Apparemment, ça va pouvoir se faire en ligne, mais quel consulat va les délivrer? Pas celui d'ici, car il est fermé.
L'administration du pays caribéen, défaillante déjà depuis des années, ne facilite pas la tâche des plus de 7 millions de migrants vénézuéliens.
Les gens se sentent apatrides, comme s'ils étaient expulsés de leur propre pays. L'idéal dans ce cas, ce serait de pouvoir fortifier ses racines ici au Chili, mais ce n'est pas possible non plus, pour n'importe quel visa de résidence. Si tu n'as pas pensé à faire la demande, par exemple, de la copie de ton casier judiciaire au Venezuela, eh bien ici, tu ne pourras pas avancer dans ta démarche. Donc tu ne peux pas régulariser ta situation ici, mais tu ne peux pas non plus rentrer au Venezuela. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'ici, je n'ai pas eu un seul client qui m'ait dit « Je me sens chilien et donc je veux demander la nationalité car je veux rester ici toute ma vie ». Non. Les gens demandent la nationalité quand ils peuvent pour ne plus avoir à faire les démarches de renouveler un passeport vénézuélien.
À quelques semaines des fêtes, ils sont nombreux à se demander s'ils pourront se rendre au Venezuela pour Noël. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Reportage de notre correspondante à retrouver sur notre site internet rfi.fr. À réécouter aussi, quand vous le voulez, sur l'appli RFI Pure Radio. Je vous propose d'écouter de la musique. Avant de se quitter, voici Toda Fé. C'est une collaboration entre l'artiste brésilien Guilmar Gomez, Richard Bonnat et Angélique Kidjo.
Do maltratado, hora perfeita, libertação do que estava engasgado, seguindo me sentindo aliviado.
Heures et 26 minutes ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, on vous retrouve Alex Léveillé. Hier soir, la Martinique a connu des tensions. Trois policiers ont été légèrement blessés à cause de tirs.
Oui, de nouveaux incidents suite à l'arrestation fin d'après-midi de Rodrigue Petitot, leader du RPRACT, après son intrusion dans la résidence préfectorale lundi soir. Pour Georges-Emmanuel Germani, l'un des avocats de Rodrigue Petitot, c'est une farce.
Soyons clairs, c'est du pipi de chat cette histoire. Ça ne doit pas être considéré autrement que comme le moyen de faire une visite de confort pour le ministre, pour qu'il continue de faire l'autruche et ne parle pas avec celui avec qui il doit parler. Comme si Malcolm X ou Martin Luther King, qui n'ont pas été élus, n'avaient aucune légitimité. On l'a vu à Paris, on l'a vu en Martinique. Le peuple est là.
Georges-Emmanuel Germani, avocat de Rodrigue Petitot, était au micro de Xavier Chevalier. Mais où en est la mise en œuvre du protocole d'objectifs et de moyens contre la vie chère? Le texte devrait faciliter le contrôle des prix et permettre également l'application de la continuité territoriale sur les produits importés. Xavier Chevalier de Martinique, La Première.
Le protocole d'accord pour lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre dernier, sera bien appliqué dès le 1er janvier prochain. C'est ce qui ressort de cet échange entre le ministre et les différents acteurs qui ont pris part aux discussions. Sébastien Dair, secrétaire général du groupe SAFO, membre de la grande distribution.
Monsieur le ministre a réitéré l'engagement de l'État sur la compensation des frais d'approche, qui est la principale composante du dispositif que nous avons donc signé le 16 octobre, et qui, je le répète, est un dispositif puissant. C'est la première fois, effectivement, que les Outre-mer pourront bénéficier d'un tel dispositif, ce qui permet d'arriver à une baisse de 20% des produits de consommation courante. Alors, pour rectifier, ce n'est pas les produits de première nécessité, c'est-à-dire que c'est les produits les plus consommés, Et quand vous avez, par exemple, une famille de pâtes, vous aurez la pâte premier prix, la pâte qualité. Donc, c'est toute la famille de pâtes, par exemple, qui bénéficiera de ce dispositif.
La réunion, qui devait initialement durer une heure, a été prolongée. Pour que tout soit clair entre les différents acteurs, les échanges ont été clairs et constructifs, se félicite François-Noël Buffet, ministre des Outre-mer.
L'objectif, c'est au 1er janvier prochain, moins 20% sur 6 000 produits, 69 familles de produits. Il y a eu un accord qui est intervenu. Le travail qui a été fait est un travail considérable, extrêmement compliqué en réalité techniquement. Les engagements permettent de réduire quasiment de 50% l'écart sur ces produits-là entre l'Hexagone et le territoire martiniquais. On le verra sur les étiquettes et la vie du quotidien va être un peu changée.
François-Noël Buffet poursuit son séjour en Martinique. Le ministre quittera notre île dans deux jours, jeudi 14 novembre.
Xavier Chevalier de Martinique, la première, c'est la fin de cette édition. Excellente fin de journée à tous.
Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était réalisée par David Brockway. On se retrouve demain à partir de 11h30 temps universel. Mais vous restez à l'écoute dans quelques secondes maintenant de Vive Voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.